Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, attaque de Gaskindé dans le Sahel. 11 soldats ont été tués, 28 autres blessés et une cinquantaine de civils disparus selon un bilan provisoire du gouvernement. Au Niger, le transit des produits pétroliers vers le Mali a été suspendu. Cela fait suite à des pratiques frauduleuses constatées. Rien à voir avec la déclaration du Premier ministre malien par intérim à l'ONU. Vous entendrez les explications du ministre nigérien des Finances. En Guinée, l'ancien président Dadis Camara a passé hier sa première nuit en prison. Il comparaît aujourd'hui avec plusieurs autres accusés pour les faits relatifs au massacre du 28 septembre 2009. 13 ans d'attente, les autorités guinéennes rassurent quant à la réussite de ce procès qui pourrait s'étendre sur 8 mois. En sport, les étalons U23 se sont qualifiés hier pour le second tour éliminatoire de la CAN de leur catégorie en battant la Gambie 2-1. Et puis, traitement de l'information en période de crise. On en parle avec notre invité du jour, le professeur Serge Théophile Balima. Pour l'enseignant-chercheur à la retraite, les journalistes ont un devoir de vérité envers les populations. Attaque contre un convoi de vivres à Gaskindé. C'était lundi en début de semaine. L'état-major des armées évoquait des dégâts humains et matériels sans autre précision. 24 heures après l'attaque du convoi de ravitaillement à destination de Djibo, le gouvernement établit le bilan comme suit. 11 soldats tués, 28 blessés et une cinquantaine de civils disparus. Lamine Traoré.
Le bilan provisoire est de 11 corps de militaires retrouvés, 28 blessés, dont 20 militaires, un VDP, volontaire pour la défense de la patrie, et 7 civils, a indiqué hier soir le gouvernement. Il précise qu'une cinquantaine de civils sont aussi portés disparus et que les recherches se poursuivent. Escorté par le 14e régiment interarmes, le convoi a été attaqué par de présumés terroristes près de la localité de Gaskindé, dans la province du Soum, région du Sahel, ce 26 septembre 2022, explique le communiqué qui poursuit que l'attaque a également causé d'importants dégâts matériels.
Lamine Traoré, ce n'est pas la première fois que cette localité subit des attaques d'hommes armés.
Oui, cette localité de la province du Soum a plusieurs fois été le théâtre d'attaques des groupes armés terroristes. Mi-juin 2019, des individus armés ont tendu à une unité du GFAT, le groupement des forces antiterroristes, au niveau de Gaskindé, non loin de Namsigia. L'attaque avait fait au moins un mort et de nombreux blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité. C'est aussi dans cette commune rurale que Oumarou Diko, député maire de Djibo, rappelez-vous, et ses compagnons de route ont été tués le 3 novembre 2019 dans une embuscade. Enlevé le 11 août 2020 à Gaskindé par des individus armés de Kalachnikov entre Namsigia et Djibo, Souaibou Cissé, le grand imam de Djibo, a été retrouvé mort le 15 août 2020. Plus récemment, soit le 24 avril 2022, c'est le détachement militaire de Gaskindé qui est visé par une attaque causant la mort d'au moins une dizaine de personnes, dont 5 militaires.
Lamine Traoré, la lutte contre le terrorisme, c'est aussi le volet judiciaire et les acteurs de la justice pénale se forment aux méthodes d'enquête, spécifiquement sur la répression des violences sexuelles liées au terrorisme. Ils sont venus de 5 pays, dont le Burkina, pour participer à cet atelier régional organisé par l'Institut international pour la justice et l'état de droit. Les techniques d'entrevue des victimes, l'importance de corroborer les preuves, la collecte et l'analyse des preuves sont entre autres point abordé. On en sait plus avec Valérie Traoré et Joël Souré.
Renforcer les capacités des praticiens du secteur de la justice pénale sur les enquêtes relatives aux violences sexuelles liées au terrorisme, c'est l'objectif que s'est assigné l'Institut international pour la justice et l'état de droit. Cet atelier qui va durer 3 jours réunit des juges, procureurs et enquêteurs venus du Burkina, du Mali, du Togo, du Bénin et de la République centrafricaine. Maître Barthélemy Kéré, ministre de la Justice, salue l'initiative.
Nous sommes dans un pays victime du terrorisme. On a souvent parlé, bien sûr, des atteintes à la vie, on a parlé donc des atteintes à la santé, etc. Mais très rarement, on a visé une question spécifique, les violences sexuelles dans ces milieux. Même les professionnels qui ont la charge de ce dossier n'arrivent pas effectivement à pouvoir identifier le fléau. Ces activités permettront en fait à l'ensemble des professionnels, vous avez vu les experts sont venus de plusieurs pays, avec les experts de chez nous, ils vont échanger les idées dans le cadre d'une plateforme pour voir comment effectivement on peut identifier de manière précise ce fléau.
Cette formation vise à ouvrir la voie à de meilleures enquêtes dans les affaires de violences sexuelles liées au terrorisme et à une responsabilisation accrue des acteurs. C'est également l'occasion de susciter une discussion nationale et régionale sur les questions de sécurité en lien avec le genre. Gaëlle Fiske-Malone, directrice des programmes.
Nous sommes ici pour encourager les acteurs de la chaîne pénale de mieux prendre en compte ce problème, d'écouter les victimes, d'adopter une approche plus centrée vers les victimes et un jour avoir un meilleur succès avec les poursuites contre les auteurs.
Cet atelier est organisé en collaboration avec le ministère du Genre et de la Famille. Créé en 2014 à Malte, l'Institut international pour la justice et l'état de droit est engagé dans la formation des acteurs intervenant dans la lutte contre le terrorisme.
On parle de changement climatique dans la suite de ce journal. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays d'Afrique de l'Ouest, subit de plein fouet les effets de cette crise. Le SPANG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, veut contribuer à développer la résilience des populations face au dérèglement, d'où la tenue d'un atelier ouvert hier mardi, prévu pour durer 3 jours. Il réunit des experts du programme Benkadi, venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Solomon Nikema et Judith Traoré.
Agir ensemble pour renforcer la résilience des populations face aux effets néfastes du changement climatique en Afrique de l'Ouest. Tel est le thème de cet atelier régional de la planification pour l'année 2023. Sylvestien Touré, directeur régional du programme Benkadi.
C'est un atelier au sorti duquel nous devrons disposer d'un plan de travail et budgétaire pour l'année 2023. Et également, c'est l'occasion pour nous aussi de capitaliser certaines bonnes pratiques. Et nous avons des thématiques phares. Cette année, la thématique phare sur laquelle nous travaillons, c'est le genre et l'inclusion dans les changements climatiques, dont les résultats seront présentés également aujourd'hui. Et nous allons préparer aussi la planification thématique pour l'année prochaine qui va porter sur le renforcement des capacités.
Financé par le Royaume des Pays-Bas, cet atelier va permettre de planifier les stratégies de la théorie du changement climatique. Le chargé de programme World and Dad, basé au Royaume des Pays-Bas, dit ne pas être totalement satisfait des 2 années passées. Lorenz Van Brucken.
And we are not happy yet with everything.
Nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été menées en tant que telles. Et nous attendons beaucoup des 2 années qui viennent. Les 2 autres années qui viennent, il y a beaucoup de choses que nous devons réaliser. Et c'est là que nous allons vraiment voir comment est-ce que nous arrivons à avancer.
Your help being journalist as well.
Le programme Benkadi a une durée de vie de 4 ans et a débuté en 2021. Il a pour cible, entre autres, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les personnes en situation de handicap. Au Burkina, il intervient dans cette région, à savoir le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, le Centre-Est, le Plateau Central, les Cascades et le Centre-Ouest.
Nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes prévues le 3 octobre prochain et la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, octroie des bourses et kits scolaires à des orphelins et enfants défavorisés. Des veuves d'assurés sociaux ont également bénéficié de vivres hier lors d'une cérémonie organisée à Ouagadougou. Pierre Badolo.
Les orphelins et des enfants défavorisés, mais aussi des veuves, des assurés sociaux, dont la pension n'excède pas la somme de 30 000 francs CFA. C'est à l'honneur de ces personnes que la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a organisé cette cérémonie de remise des bourses d'études, de kits scolaires et de vivres ce 26 septembre. Djibril Toé, directeur général de la CNSS.
Notre objectif, c'est quand même de marquer notre solidarité vis-à-vis des personnes vulnérables que sont les orphelins, veuves, avec la situation actuelle du pays. C'est vrai qu'on le fait depuis 1978, comme on l'a dit, hein. Mais cette année, on a décidé quand même de marquer un peu le coup en passant donc de 150 à 300.
L'initiative est appréciée par le ministre de la fonction publique qui a marqué de sa présence à cette cérémonie et aussi par le parrain qui a salué le geste de la Caisse nationale de sécurité sociale qui a pensé à soulager les orphelins à cette rentrée scolaire difficile. Lassine Diawara, parrain de la cérémonie.
Personne ne peut rester insensible quand il s'agit de la veuve, de l'orphelin et les personnes vulnérables. J'ai pensé que c'était une occasion d'élargir davantage notre champ d'intervention en essayant d'associer nos efforts à ceux de la CNSS. Pour moi, c'est une cause noble. Je ne peux pas rester en dehors de ça et c'est un grand honneur pour moi.
Les bénéficiaires, composés d'orphelins, d'enfants défavorisés et des veuves, ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Mouniratou Badini, représentante des récipiendaires.
Grâce à cette bourse, la charge financière, les frais de scolarité de nos parents et tuteurs seront allégés et nous vous en sommes reconnaissants pour toujours.
325 personnes ont été impactées par cette remise des dons. Elles ont reçu des bourses d'études, des kits scolaires d'une valeur de 40 000 francs CFA et des enveloppes de 80 000 francs CFA pour des élèves, aussi des vivres et des enveloppes pour des veuves. Pour cette édition 2022 organisée par la CNSS et accompagnée par les établissements financiers et assurances, la contribution totale s'élève à plus de 33 millions de francs CFA.
Et l'Institut des sciences des sociétés rend hommage à son ancien directeur, Dr Basga Emile Diala. Le socio-anthropologue à la retraite a dirigé plusieurs projets de recherche scientifique à la tête de cet institut, mais aussi au niveau du CAPES, Centre d'analyse de politique économique et sociale. Un séminaire scientifique a donc été organisé en son honneur. L'initiative vise aussi à soutenir la recherche en faveur du développement durable en s'appuyant sur les acquis engrangés par le devancier. La cérémonie d'ouverture des travaux est intervenu hier mardi dans les locaux de l'INSS en présence de Moumouni Tamboura et Abdulaziz Zoulabou.
Dr Basga Emile Diala a passé toute sa carrière en tant qu'ancien chercheur sur la problématique du développement durable fondée sur nos valeurs socioculturelles. Le présent séminaire a pour thème « Connaissance endogène, savoir paysan et développement durable ». Le lieu pour les initiateurs de valoriser ces années de travail du docteur, mais aussi de poursuivre le chantier engagé pour relever les défis de l'heure. Docteur Ludovic Kibura, directeur de l'INSS.
Partout où il est passé, il a travaillé, il a maintenu cette trajectoire de recherche sur les savoirs endogènes. Et donc, les collègues, les jeunes collègues, dont certains ne l'ont même pas vu en activité tellement à l'Institut, mais ont tenu à ce qu'on le célèbre, non pas en hommage simple, mais comme c'est un chercheur, il faut qu'on encadre cela aussi avec une journée faite donc d'exposer des champs scientifiques autour de la thématique donc des savoirs endogènes.
Cet acte est perçu comme une grande marque de considération par Dr Diala qui traduit toute sa satisfaction.
Je prends ça comme une grâce et je leur dis infiniment merci et que en faisant cela, bon, c'est comme Joseph Kizerbo qui disait qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. En fait, c'était une manière élégante pour lui d'enseigner à la jeune génération qu'elle peut très bien puiser à la source des anciens pour aller de l'avant. C'est comme si on leur demandait de savoir nouer la nouvelle corde à l'ancienne.
Dr Diala a également occupé plusieurs postes de responsabilité au Burkina. Il a été chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale de 1984 à 1986, directeur exécutif du CAPES de 2005 à 2012. Il sera nommé ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi de 2013 à 2014. Il est auteur de plus d'une quarantaine de publications, articles scientifiques et de vulgarisations confondues. Il a été admis à la retraite en décembre 2019.
L'actualité internationale, le Niger suspend le transit des produits pétroliers vers le Mali. Cela fait suite au constat de pratiques frauduleuses du reversement de ce produit exonéré de taxes et de droits de douane sur le territoire national, contrairement à une opinion véhiculée par les réseaux sociaux. Cette mesure n'a rien à voir avec la déclaration du Premier ministre malien par intérim à l'ONU. Écoutez les explications du ministre nigérien des Finances, Amat Jidou.
J'étais surpris de voir une polémique circuler sur la question de la suspension du transit des hydrocarbures vers le Mali. De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire que les hydrocarbures, en particulier le sens qui était censé transiter du Nigeria vers le Mali en passant par le Niger, est reversé sur le territoire nigérien à raison du différentiel de prix parce que l'essence coûte moins cher au Nigeria qu'au Niger. Et par conséquent, les concernés ou les bénéficiaires de ces autorisations profitaient pour déverser ou reverser ces hydrocarbures ici. Après analyse et avec vidéo à l'appui, la SONIDEP m'avait convaincu effectivement de l'existence de cette fraude. Et c'est sur cette base-là que j'ai demandé à l'administration douanière de suspendre. À la suite de cette décision, j'ai demandé au directeur général des douanes de prendre une note pour notifier cette décision aux unités douanières qui sont au niveau des frontières, tant à l'entrée qu'à la sortie, pour que cela soit officiel. Et c'est le 21 septembre que le directeur général de la douane a pris la circulaire, sur la base bien sûr des mesures suspensives ou des suspensions que j'ai prises le 9 septembre. Vous voyez donc, il y a une coïncidence hasardeuse du calendrier que certains ont essayé d'interpréter comme étant une sorte de mesure de représailles à l'endroit du peuple frère malien. Ce n'est pas ainsi. Ça n'a rien à voir. C'est totalement déconnecté. Il n'y a aucune corrélation.
Autre précision, cette mesure de suspension ne concerne pas les exportations de produits raffinés au Niger qui continuent d'être exportés vers le Mali, indique le gouvernement nigérien. L'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés ont été envoyés en prison hier mardi avant d'être jugés à partir de ce mercredi pour le massacre commis dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009. Ce procès très attendu par les Guinéens démarre ce mercredi 28 septembre 2022, soit 13 ans après les faits. Par rapport à la tenue de ce procès, les autorités guinéennes rassurent que toutes les dispositions sont prises. On écoute Yaya Kaya Iraba Kaba, porte-parole du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.
La tenue de ce procès paraissait improbable pour beaucoup de personnes. Les organisations de la défense des droits de l'homme se sont impliquées. Pourquoi tout ce temps? Parce que tout simplement, il faut se dire la vérité, il a manqué la volonté politique. Les hommes chargés de ce procès, c'est-à-dire les magistrats professionnels, ont été sélectionnés. Ils appartiennent tous au tribunal de première instance de Dixé, tribunal territorialement compétent. Ils ont suivi des formations spéciales justement pour la tenue de ce procès. Et en termes de mobilisation des acteurs de la justice, ils ont bénéficié de l'encadrement de la façon la plus large des aînés depuis nos aînés de la Cour suprême jusqu'au niveau des anciens magistrats comme moi. Nous avons tous mis nos efforts en commun et nous avons grand espoir que ce procès sera une réussite. Les magistrats proprement dit sont une dizaine ou une quinzaine à peu près. Vu la qualité des acteurs mis en cause, tout ceci, un temps prévisionnel de 8 mois. De 8 mois est retenu. À date, il y a 450 parties civiles. Les accusés renvoyés devant le tribunal sont au nombre de 13.
Propos recueillis par notre correspondant Abdoulaye Siré Diallo. Asmaou Diallo, la présidente de l'association des victimes parents et amis du 28 septembre, espère que ce sera un procès de vérité. Elle a été jointe au téléphone par Radio Omega.
13 ans, ce n'est pas petit. Et nous espérons que tout va bien se passer, parce que nous avons vraiment de l'espoir après, depuis que les nouvelles autorités ont donné leur avis pour l'ouverture du procès. J'avoue qu'ils ont vraiment monté à la vitesse supérieure pour que le 28 septembre 2009 soit la date du procès. Nous espérons que tout va bien se passer, en tout cas tout se prépare très bien. Et les victimes sont vraiment très à l'aise et très contentes. Et nos partenaires, nos amis qui nous ont toujours accompagnés, l'OGDH et la FIDH qui nous ont vraiment accompagnés depuis le début, qui sont partis civils aussi dans ce dossier. J'avoue que tout se passe bien, tout le monde est ravi. Et j'espère que les choses aussi iront dans de bonnes conditions et que justice sera rendue aux ayants droit et que la vérité va sortir.
La tuerie du 28 septembre 2009 avait fait plus de 150 morts lors d'un rassemblement de l'opposition. Plus de 100 femmes avaient été violées. L'ancien chef de l'État, Moussa Dadis Camara, figure parmi les accusés.
Omega Sport.
Les étalons U23 ont disposé hier de la Gambie 2-1 et se sont qualifiés pour le second tour éliminatoire de la CAN prévue au Maroc. Battus 0-1 à l'aller, les hommes de Brahma Traoré et Drissa Kongo ont fait On fait la différence grâce à Brahima Nagoro et Jean Fiacre sur pénalty. Le Burkina Faso affrontera le Sénégal au deuxième tour. Les étalons seniors, eux, jouaient hier leur deuxième match amical FIFA. Les poulains de Hubert Velut se sont imposés 2-1 face aux Comores en amical sur des buts d'Issoufou Dayo et Bertrand Traoré sur pénalty.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Le métier de journalisme est, on l'exerce au nom de la société, pas au nom d'un pouvoir établi. Le professeur Serge Théophile Balima, enseignant-chercheur à la retraite, est notre invité du jour. Il apporte des éléments de réponse sur le traitement de l'information en lien avec les attaques terroristes pour une meilleure compréhension. Le professeur Serge Théophile Balima répond aux questions d'Asma Odao.
Bonjour, professeur Balima.
Bonjour.
Le Burkina Faso vit une crise sécuritaire sans précédent. Rien que lundi dernier, un convoi de ravitaillement des populations du Sahel a été attaqué et l'armée parle de dégâts humains et matériels sans donner de chiffres. Professeur Balima, dans ce contexte d'insécurité, une certaine opinion estime que les médias, en relayant ce genre d'informations, sapent le moral des troupes et ou entretiennent la psychose. Finalement, on se demande que faire.
Bon, écoutez, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que c'est tout à fait normal. Vous savez, le pouvoir, c'est un pouvoir à part. Le journalisme est un pouvoir à part. Ce sont deux pouvoirs qui, généralement, en contexte de démocratie, s'affrontent convenablement avec un esprit d'élégance. Mmh. Mais évidemment, quand on est en situation de crise, cette confrontation devient très conflictuelle. Okay. Et ça, il faut que vous le compreniez. Vous ne pourrez jamais trouver un pays, même dans une situation normale, tout pouvoir établi a besoin de silence. Or, la presse fait le contraire parce qu'elle déteste le silence, parce qu'elle doit informer l'opinion. Donc, il faut que vous vous mettiez dans cette posture-là, qu'on ne vous fera jamais de cadeau par rapport aux informations que vous donnez.
Okay.
Ce que les pouvoirs cherchent, c'est que vous transformiez vos informations en communication, c'est-à-dire en message d'accompagnement des actions publiques. Ce qui va vous amener à renoncer à ce qui constitue le quatrième pouvoir que vous détenez. Donc, il faut que vous compreniez ça d'emblée. Alors maintenant, pour répondre autrement à votre question, c'est tout à fait normal que le pouvoir établi veut que on raconte, si vous voulez, le moins possible des éléments d'information sur ces échecs. Or, vous, vous avez un devoir de vérité vis-à-vis de la population. Parce que vous êtes redevable à l'ensemble de la population, puisque vous exercez le métier de journalisme, on l'exerce au nom de la société, mais ce n'est pas au nom des pouvoirs établis. Donc c'est tout à fait normal que vous vous cherchiez à dire la vérité. Et c'est normal que vous puissiez simplement faire allusion aux chiffres officiels donnés par les pouvoirs publics, mais c'est votre devoir aussi de confronter la version officielle avec d'autres versions. Et ça, c'est le travail du journaliste, et vous devez le faire, et c'est votre droit de le faire, et vous devez le faire.
On reproche aussi aux journalistes un manque de patriotisme. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, lors d'une attaque, on met l'accent sur les soldats tués au lieu des terroristes.
Bon, comme je vous dis, vous, vous travaillez au nom de la société. Mmh. Donc, ce qui touche directement la société, c'est ça qui est l'élément majeur. Or, ce qui touche le plus la société, ce sont les victimes de notre société. C'est-à-dire que les personnes victimes, évidemment, constituent une préoccupation majeure pour le journaliste. Les terroristes, ça, c'est après. C'est tout à fait normal, parce qu'il faut hiérarchiser les informations. Donc, c'est normal que vous privilégiez, en fait, les dégâts humains. C'est tout à fait normal. Ensuite, vous avez les dégâts matériels, les dégâts financiers. Mais dans l'ordre des choses, ce qui touche davantage la population, c'est votre préoccupation majeure. Les terroristes, ce sont des ennemis, si vous voulez. Évidemment, on ne s'occupe pas d'eux pour l'instant, mais on s'occupe en priorité de nos victimes, des personnes blessées, tout à fait normal.
Alors, il y a certains internautes qui nous reprochent en outre, dans notre traitement des communiqués de l'armée, le fait que l'on parle de présumés terroristes. Pouvez-vous nous expliquer cette subtilité?
Bon, ce n'est pas une subtilité, en fait, c'est une prudence professionnelle. Parce que vous ne pouvez pas être à la remorque de n'importe quel vocabulaire. Parce que vous savez que les pouvoirs publics, c'est vrai, disent aussi leur vérité, mais ce ne sont pas des vérités absolues. Lorsqu'on dit que ce sont des terroristes, c'est discutable, parce que la notion de terroriste est une notion variable. Et ça dépend pour qui le terroriste agit, et ça dépend contre qui le terroriste agit. Si vous prenez le cas, par exemple, d'Israël avec la Palestine, pour les Israéliens, les Palestiniens, quand ils font des attentats, ce sont des terroristes. Mais pour les Palestiniens, lorsqu'ils font des attentats, ce sont des combattants. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des libérateurs. Donc c'est une notion qui est assez conflictuelle. C'est une notion valise dans laquelle, évidemment, chacun y va de sa signification et de ses attentes, de ses fantasmes. Donc quand vous dites présumé terroriste, c'est parce qu'on ne sait pas si réellement ce sont des terroristes, ou bien ce sont réellement des bandits de grand chemin, ou bien seulement ce sont des véritables djihadistes, on n'en sait rien. Donc la prudence sémantique que vous observez me semble être d'une bonne rigueur professionnelle.
Et vous, professeur Baliman, est-ce que vous avez des reproches de façon générale à la presse burkinabé dans son traitement de l'information sécuritaire?
Alors évidemment, quand vous demandez à un professeur de vous dire son appréciation, moi je vous dirais que pour l'instant l'essentiel, ça va, mais il y a toujours des points qu'il faut améliorer. Par exemple, la notion d'équilibre de l'information, il faut savoir, il faut encore travailler davantage pour que l'information soit davantage équilibrée. Parce qu'il ne faut pas non plus que vous soyez à la remorque des réseaux sociaux. C'est une menace extrêmement grave. Mais il faut aussi que les pouvoirs publics comprennent que s'ils n'investissent pas dans les réseaux sociaux, ils vont être dépassés par ces canaux de diffusion aussi de l'information qui sont des canaux de plus en plus importants et avec lesquels il faut compter.
Professeur Baliman, merci.
Je vous remercie.
Le professeur Serge Théophile Balima, enseignant-chercheur à la retraite, répondait aux questions d'Asma Odao. Fin de ce journal réalisé par Adama Konaté. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.
Radio Omega, l'info en direct.